puse. Esperaba que estuvieras aquí, pero ¿qué le voy a hacer?
C'est la revue de presse.
Khoya Arslan Mahbabik, bonjour, salam. Galère présente
les Harragas de Marseille.
Patatou, patatou, patatou. Bienvenue dans l'émission Harragas en compagnie de Kamar et Arslan. Harragas, patatou,
patatou,
patatou, patatou,
patouria.
روفي دو بريس
بلاد ميكي والخرطي.
رقم الهاتف التليفوني 04-91-08-10 04-91-08-28-10 et ça se passe tous les jeudis de 16h à 18h. Salam alaikum khoya Arslan.
Alaikum salam khoya Kamar. Wach rak ma saha?
Très bien la base. Alors comment t'as passé ta semaine?
Ça va, comme taha nouda.
Kima l'Algérie?
Tout à fait.
Bonjour, émission Haraga, dirigée par Kamar Idir. Ma chronique, revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum ajma'at al-Haraga na fi da'at galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie. Elle fait appel à la rue qui la interpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et la chronique de René Naba. C'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Harragas de Marseille. Bakhir al-Harraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18h, M'sa à la Rabia, hâte à la 16h. Salam alaikum, bonjour, Azoul, Fellaoun. C'est Idir, comme toujours, qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Ya Jma'at al-Khair, on est le 19 juin 2025 et nous sommes heureux d'être parmi vous. Allez, on va attaquer les titres. Tout d'abord, les coulisses de la manif du dimanche, comme d'habitude, à la Côte Arfo, la Porte d'Aix, à Marseille, suivi de l'analyse de Bernard Genet, géopolitique. Après, c'est Martigues, oui, à Martigues, il y a un rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Ont participé le collectif Palestine sur la situation en Palestine et génocide en cours. Deux, le mouvement de la paix sur l'industrie de la guerre. Quartier libre sur le lien avec les masses populaires et les jeunes du quartier et les associations. Vous savez que c'est Adil qui se donne à fond depuis longtemps. Et bien sûr, on retrouve notre René Naba qui a été invité. N'oublions pas l'union locale CGT sur Georges et sa déclaration. Juste après, c'est le vif. Vous savez que chaque année, l'IME Verpré organise la fin d'année avec les enfants. Tout d'abord, vous allez embarquer pour un voyage interstellaire à l'occasion de la fête de l'IME à travers cet événement exceptionnel placé sous le thème fascinant de l'espace. Vous allez explorer plutôt le mystère du vif tout en partageant la passion des enfants. Comme chaque année, Radio Galère, avec le micro, se déplace sur les lieux. Karine est une éducatrice de l'unité 1 du groupe des voyageurs de l'IME Verpré. A bien voulu nous répondre à quelques questions. Cette année, le vif est placé sous le signe de une fusée, une étoile, un astronaute. Bonne écoute.
Aujourd'hui, nous sommes là à Marseille pour deux camarades. Le premier, c'est Anas Kazib, cheminot, militant syndical et porte-parole de Révolution Permanente, qui passera en procès pour son soutien au peuple palestinien avec un autre camarade de Révolution Permanente demain matin à Paris. Et le deuxième, évidemment, c'est Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, emprisonné par l'État français depuis 41 ans pour son soutien à la Palestine et pour les convictions qu'il n'a jamais abandonnées. Et qu'il y aura une audience d'appel le jeudi 19 juin. La répression de l'État impérialiste français frappe hier comme aujourd'hui. Ce soir, celles et ceux qui sont ici, ce sont celles et ceux qui ont compris cela. Ce sont celles et ceux qui disent haut et fort que soutenir la Palestine n'est pas un crime et qui ont pour tâche de dénoncer la complicité des États occidentaux dans ce génocide. Mais les camarades, j'ai une bonne nouvelle. Ce soir, il n'y a pas qu'à Marseille où nous avons compris. En ce moment même, ce soir, dans plusieurs villes de France, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Metz, à Mulhouse et à Strasbourg, il y a des centaines de personnes qui sont rassemblées. Mais les camarades, j'ai une autre bonne nouvelle. Il n'y a pas qu'en France où nous avons compris. En ce moment même et les jours derniers, devant les ambassades de France, de Madrid, de Berlin, de New York, de Rio de Janeiro, de Santiago, Chili, de Mexico, de La Paz en Bolivie, il y a eu des centaines de personnes de rassemblées pour exiger la relaxe d'Anas Kazib. C'est donc avec une grande fierté que nous avons organisé ce rassemblement ici à Marseille. Un rassemblement unitaire à l'appel d'une dizaine d'organisations que je vais citer. Le Comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, l'UDCGT 13, Solidaires Bouches du Rhône, Sudrail PACA, la France Insoumise, UJFP, TCEDEC, les JC 13, UPM et le FIQP et bien d'autres collectifs et organisations et partis politiques qui nous ont rejoints par la suite et que nous remercions chaleureusement. Ce soir, les camarades, ce soir, nous exigeons la relaxe de tous les soutiens de la Palestine et de toutes celles et ceux qui sont pourchassés par l'État pour leur prise de position. Et nous apportons toute notre solidarité aux camarades qui passeront en procès demain et qui étaient aujourd'hui poursuivis suite à une plainte de l'organisation de la jeunesse française juive, qui est une organisation d'extrême droite. Cette organisation, les camarades, cette organisation, elle a déposé 41 plaintes. Contre de nombreuses personnalités, Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Daniel Obono, l'UJFP, une organisation qui ose comparer le drapeau palestinien au drapeau nazi, qui mène une guerre idéologique contre celles et ceux qui dénoncent le génocide et qui assume pleinement ses positions d'extrême droite. Anas Kazib, c'est le premier à passer devant les tribunaux suite à cette plainte. Et c'est pourquoi il est vital qu'il soit relaxé. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Nous sommes en train de faire une démonstration de force vis-à-vis de l'État. Et demain, toutes celles et ceux qui seront menacés, nous continuerons, et nous continuerons et nous recommencerons. Palestine vivra, Palestine vaincra.
Georges Abdallah, libéré, Georges Abdallah, libéré. Palestine. Il va falloir, dans les prochains temps, dans les temps à venir, qu'on se revoie, mes camarades. Il va falloir qu'on réorganise des rassemblements tant qu'on n'aura pas la libération de Georges et la paix en Palestine. La paix et la reconnaissance de leur État. Voilà, justice
nous
pour
les Palestiniens. Ce rassemblement
Palestine.
Pour dénoncer la situation actuelle en Palestine, mais qui dure depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous dénonçons la situation. Et, bien sûr, pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un symbole de la lutte pour la reconnaissance de l'État palestinien et contre l'oppression, qui va être jugé donc le 19 juin prochain. Donc nous, on fait ce rassemblement pour ça, pour aider Georges et que la pression populaire aide Georges à sortir de prison, enfin, après plus de 40 ans de prison, et aussi pour dénoncer le génocide actuel en Palestine et l'oppression des Palestiniens depuis des dizaines d'années. La situation que vivent actuellement les Palestiniens, elle est encore pire que ce qu'elle était déjà l'année dernière ou l'année d'avant. C'est un massacre organisé. On les parque comme des animaux. C'est un vrai génocide qui est calculé et voulu par l'État israélien. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Et après, pour développer, le massacre de dizaines de milliers d'enfants, c'est pas la guerre. Ça peut pas être qualifié d'une guerre ou de dommages collatéraux. On est encore une fois sur une volonté d'éradiquer toute une population, d'éradiquer sa culture, d'éradiquer son lieu de vie, d'éradiquer son moyen de, leur moyen de manger, leur moyen de se soigner. Il n'y a plus rien en Palestine. Et c'est même pas une question géopolitique. On le dit, on le répète, mais c'est une question d'humanité. Tous les humains, tous ceux qui se sentent humains sur cette planète, ne peuvent que se sentir solidaires de ce qui se passe en Palestine. Et ceux qui le ressentent pas, il faut vraiment qu'ils se posent des questions sur leur humanité. Comment on peut aimer quelqu'un? Comment on peut aimer sa famille si derrière on voit des enfants et des familles se faire massacrer devant nos yeux en direct sur les réseaux sociaux puisque la télé refuse de montrer les images? Mais comment on peut tolérer ça au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est quand même, avec la technologie, le premier génocide filmé en direct. Et le monde entier doit se mobiliser pour arrêter cette guerre, pour arrêter ce génocide. Donc, Daniel Bretonnès, secrétaire général de l'Union locale CGT du pays Marseille.
Donc Thierry, du collectif Solidarité Palestine de Martigues. Bien sûr, on intervient pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah, ça fait 41 ans qu'il est en prison. Ça veut dire que déjà, ça fait plus de 40 ans que il y a des militants qui participent à la lutte du peuple palestinien. Et effectivement, ce sur quoi on va intervenir tout à l'heure, c'est que, en tant que collectif, ce qu'on voudrait dire, c'est que la situation du peuple palestinien, elle dure depuis un peu moins d'un siècle, et que depuis en tout cas à peu près 80 ans, le peuple palestinien, il est martyrisé dans l'objectif de le faire partir et de le remplacer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une période un peu plus dure et visible du nettoyage ethnique, mais ce nettoyage ethnique, il a commencé en 1947, il a commencé même un petit peu avant, mais il date de la Nakba. Il s'est jamais arrêté vraiment. Il suffit d'être allé en Palestine dans les années calmes, entre 67 et 2023, pour voir que les Palestiniens étaient martyrisés, chassés, spoliés, sans arrêt partout, et que le but, c'était qu'ils s'en aillent pour qu'ils puissent être remplacés par des colonies juives partout en Palestine. Donc, le rôle du collectif, c'est de faire connaître ça, ce qui explique toute la situation actuelle. Et parmi les gens qui ont participé à la lutte du peuple palestinien, à la résistance du peuple palestinien à ce nettoyage ethnique, il y a bien sûr les militants libanais comme Georges Ibrahim Abdallah. Et donc, pour nous, c'est important de demander sa libération.
René Naba, chroniqueur de Radio Galère, que les auditeurs me connaissent. J'interviens pour décrire une radioscopie des turpitudes de la technostructure française dans le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Point barre. C'est tout. Wassalamu
alaikum. Bazar
fait parfois bien les choses. Le 19 juin 2025, la France se devait de coprésider avec l'Arabie Saoudite une conférence au siège des Nations Unies à New York en vue de promouvoir une reconnaissance internationale de l'État de Palestine. Le jour même où, fâcheuse coïncidence, la justice française doit se prononcer sur le sort de Georges Ibrahim Abdallah, un militant libanais de confession chrétienne, ça c'est une tare, communiste, une deuxième tare, et qui a dédié sa vie à la reconnaissance d'une Palestine indépendante, une troisième tare. Vous comprendrez pourquoi il vit une injustice permanente. Ce télescopage de l'histoire est d'autant plus fâcheux que l'homme à l'origine de la conférence internationale sur la Palestine n'est autre qu'Emmanuel Macron, vous savez, celui dont la femme a été souffletée à son arrivée à Hanoï, oui, sous le mandat duquel a été votée la loi IRA, assimilant toute critique d'Israël à de l'antisémitisme. Comble de perfidie, à 2 semaines de cette conférence, la France projetait de livrer à Israël une cargaison militaire à la date hautement symbolique du 5 juin 2025, date commémorative de la défaite arabe de juin 1967, une cargaison militaire. Cette manœuvre équivalait à une prime au bellicisme israélien. Elle a été déjouée par la vigilance des dockers CGT du bassin de Fos. Grâce leur en soit rendue. Les explications tortueuses de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, sur cette affaire, se sont révélées à son image biscornue. Nonobstant ce fait hautement dommageable pour son image, la France, le 19 juin, fera face, ce jour-là, à un terrible dilemme. Qu'elle maintienne en prison le militant palestinien et sa démarche diplomatique apparaîtra comme antinomique de son objectif onusien. Une gesticulation diplomatique, comme elle est coutumière du fait, une simple posture déclamatoire, du pipeau en somme. Ça, c'est pas aussi tribun, mais ça va aller. Georges Ibrahim Abdallah représente en effet un condensé de toutes les turpitudes de la France, le révélateur du dysfonctionnement de ce pays dont les mythes fondateurs sur lesquels il a longtemps prospéré auront volé en éclats. Qu'on en juge. La patrie des droits de l'homme, dans le cas d'espèce, a commis un abus de droit. Ce faisant, elle apparaît qu'elle est juste la patrie de la déclaration des droits de l'homme et non la patrie des droits de l'homme, selon l'expression d'un juriste éminent, Robert Badinter, ancien ministre de la Justice et ancien président du Conseil constitutionnel. La France, deuxième turpitude, la France qui s'est longtemps vécue comme la fille aînée de l'Église et s'est arrogée à ce titre la fonction de protectrice des chrétiens d'Orient, s'est révélée dans le cas de Georges un chrétien, pourtant maronite de naissance et ancien élève des congrégations religieuses chrétiennes libanaises, dont la sœur est une religieuse chrétienne libanaise. La France s'est révélée dans ce cas comme exerçant non une fonction de protection, mais une fonction de protectorat, dans la pure tradition coloniale française, traquant sans répit toute pensée dissidente. Le hasard du calendrier, la concordance de ces deux événements, le 19 juin 2025, la conférence de l'ONU sur la Palestine et le verdict dans l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, celle dans l'ordre symbolique, le lien indissociable entre le communisme libanais et la cause palestinienne. En 77 ans, Israël s'est appliqué méthodiquement à enfouir sous les décombres l'identité palestinienne alors que parallèlement, depuis 41 ans, la France s'acharne à emmurer ce chrétien libanais pro-palestinien. Signalons au passage, ça je vais vous mettre à l'aise, signalons au passage qu'Israël ne pratique pas un génocide. Non, elle ne pratique pas un génocide. Les bien-pensants vont rigoler. Étymologiquement, le génocide est l'extermination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national. Là, Israël ne pratique pas un génocide. Israël ne pratique pas un génocide, mais un sociocide. L'anéantissement de la totalité de la société palestinienne dans toutes ses composantes humaines, culturelles et économiques, dont la dernière en date, ce n'est pas l'annexion de Jérusalem, ni la transformation de Tel Aviv, du mot arabe de Tal al-Rabir, la colline du printemps, ou Lod, l'ancien mot arabe Lida, ou Eilat, Umm Rashash, elle a tout hébraïsé pour dire c'est eux, mais elle a revendiqué comme une spice, Israeli spice, une épice israélienne, le fameux za'atar, qui égaye vos petits déjeuners, qui égaye le petit déjeuner des Libanais, des Syriens, des Palestiniens, mais c'est devenu une épice israélienne. Elle a annexé même le za'atar, oubliant qu'il y avait un fameux tal za'atar au Liban, qui est une sinistre mémoire, qui a été massacré avec l'accord des Israéliens et des milices phalangistes. En 70 ans d'acharnement en vain. Retenez de bien, Israël ne commet pas un génocide. C'est un contresens historique. Elle commet un sociocide. J'aimerais bien qu'on en conserve dans sa mémoire. 77 ans d'acharnement en vain. Le peuple palestinien résiste, tout comme Georges, sans s'adonner au découragement. La rectitude de son comportement à Georges constitue une leçon de courage exemplaire pour tous les militants en lutte pour la réalisation de leurs revendications. Georges est un homme debout, dont l'attitude tranche avec la reptation de la faune politico-médiatique française. Cette affaire a en effet révélé l'extrême servilité de la France à l'égard des États-Unis et d'Israël, comme en témoigne le comportement de l'ancien ministre socialiste de l'Intérieur, Manuel Valls, cet ancien pro-palestinien, désormais lié de manière éternelle à Israël du fait de son mariage avec une Française de confession juive. Un jour, il épousera une Arménienne, il y sera lié aussi. Obéissant sans pipe-mot aux oukases de Hillary Clinton, à l'époque secrétaire d'État des États-Unis, conduisant ce transfuge socialiste de s'abstenir d'émettre une obligation de quitter le territoire français, la fameuse OQTF, très prisée de nos jours par ses successeurs. Cette servilité est doublée d'une tétanie du débat public français du fait de la collaboration vigiste avec le nazisme qui obère la raison et obstrue la vie. Au terme de la mandature macronienne, Manuel Valls, le renégat socialiste, rejoindra sans délai les poubelles de l'histoire, frappé du sceau de l'infamie, affligé de la stigmate indélébile de la souillure morale absolue, quand Georges Ibrahim Abdallah sera propulsé à la stature d'icône vivante du combat politique. De défaite en défaite, le peuple palestinien, de défaite en défaite, le peuple palestinien, de déboire judiciaire en déboire judiciaire, Georges Ibrahim Abdallah, iront à la victoire finale, pour reprendre le mot d'ordre révolutionnaire d'un connaisseur, le dirigeant chinois Mao Tse-tung, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. De défaite en défaite, le peuple palestinien, de déboire judiciaire en déboire judiciaire, Georges Ibrahim Abdallah, iront à la victoire finale, pour reprendre le mot de Mao Tse-tung. Longue vie au peuple palestinien, quelle que soit l'issue de son combat. Longue vie à Georges Ibrahim Abdallah, quelle que soit l'issue de sa bataille judiciaire, et que dans la mémoire des peuples en lui, leur exemple vive éternellement.
Prochaine intervention, monsieur le maire de Martigues.
Bonjour à tous, Adil Fajri, donc association Quartier Libre, qui est une... Donc c'est quartier libre. et donc association de quartier depuis 2015 à Istres. Militant depuis très longtemps sur la question palestinienne. On se veut la parole des quartiers, une parole autonome des quartiers. On a été créé justement pour beaucoup de personnes parler à notre place et on ne donnait pas assez la parole aux quartiers. Notre lien avec Georges Ibrahim Abdallah, vraiment pour être très rapide, puisque mes confrères ont été très très rapides, c'est faire le lien entre la violence du libéralisme et du capitalisme avec la question de Georges Ibrahim Abdallah. Et il y a de suite une image qui me vient à l'esprit pour rendre hommage à nos grands frères. C'est pas un terme que j'aime bien, mais là en l'occurrence, je suis assez fier de le dire. Nos grands frères des quartiers qui dans les années 80 ont fait la marche, et vous savez comment elle a abouti à Paris. Et une partie de ce cortège n'a pas été reçue à l'Élysée parce qu'ils avaient l'écharpe de la Palestine autour du cou, et une grande partie d'entre eux, en tout cas certains militants, c'est à eux que je veux rendre hommage, qui ont refusé de rentrer chez Mitterrand parce qu'ils n'ont jamais voulu enlever leur kéfier. Et en parallèle de ces années 80, 83, 84, c'est aussi l'enfermement de Georges Ibrahim Abdallah. Nous, à Quartier Libre, et notamment les militants, on a un comité pour la libération de Georges depuis 10 ans, plus de 10 ans, où on tournait un peu dans les petits cafés, dans les villes, à Aix, à Martigues, ailleurs, pour faire connaître la question de Georges. Aujourd'hui, on est content, la question de Georges a pris, et c'est jamais assez, puisqu'on aimerait qu'elle soit encore plus diffusée, plus connue. Mais néanmoins, il y a plein de rassemblements ces dernières semaines pour exiger la libération de Georges le 19 juin. Et donc c'est en ça qu'aujourd'hui, nous, on remercie l'initiative de la CGT, de tous les partenaires qui sont avec nous, parce que grâce à ça, on arrive, nous, localement, à exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, vous parlez de la violence que subit aujourd'hui la question palestinienne et de la violence de l'enfermement de Georges Ibrahim Abdallah, ni plus ni moins que la violence qui se passe du lot de précarité, de pauvreté et de destruction des valeurs humaines qui peut exister dans nos quartiers populaires.
واشوف دنياها قدادا يزاق بنادم كيف الميزان طال عمره يعوف الجريان يا مفايزاق والعالم يدير مراد حكم وشامل شرفه ومراد والهجران سعد بنادم فيهم رابط وشوف عزت بنادم حايدة شوف الفرحة مضوية على الوطن والناس زاهية فرحانة غير الطيار ليلة سهرانة ذاك يا بنو عذاب المال يا قلبي عذاب المال
Nasser Riwan sur les ondes de Radio Galère, le groupe mythique marocain. Eh oui, c'était des années 74-70, c'est un groupe très, 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 très virulent. Et en même temps, à texte, c'est des chanteurs qui ont disparu. Voilà.
Je suis secrétaire à l'Union locale CGT de Martigues sur les questions internationales et sur la partie revendicative. Voilà, c'est pour dire que ça fait des années qu'on organise des rassemblements tous les ans pour la libération de Georges. Tous les ans, on participe à la manifestation devant la prison de la Nemezan. Il y a même eu en 2024 où on y est allé deux fois. On a reçu dans nos locaux une camarade de Georges qui s'appelle Mariam Aboudaka. Ça a été la plus belle rencontre de ma vie de militante jusqu'à aujourd'hui. J'ai presque 50 ans. Une résistante et une membre du FPLP. Voilà, et nous en sommes très fiers. Qui a participé au rassemblement pour la libération de Georges, qui a fait une intervention malgré la horde de flicailles qu'on avait devant l'Union locale. On a résisté, on a appelé à sa libération et ce soir on va le faire encore avec l'association Quartier Libre, avec René Naba, avec le collectif Palestine, le mouvement de la paix. On forme un front fort, populaire et de classe, pour un homme de classe mondiale. Je dis bien un homme de classe mondiale, parce que Georges Ibrahim Abdallah, ce n'est pas qu'un individu. Il représente, il représente la liberté, il représente tout ce qui est contre l'oppression. Et voilà, c'est un homme de grande classe pour tout ce qu'il a fait toute sa vie pour la cause palestinienne. Et on est bien sur une question de génocide. Nous, l'Union locale CGT, on dénonce un génocide et pas un massacre. Voilà, il faut pas... La sémantique, c'est beaucoup. Il faut pas se tromper. On est sur l'extermination du peuple de Palestine et rien d'autre. Merci.
D'abord, présentez-vous.
Donc moi, je suis Frédéric Grimaud. Je suis conseiller municipal à Martigues. Je suis aussi membre du collectif de solidarité avec la Palestine. Et il y a les deux raisons qui nous amènent ce soir. C'est le premier, c'est l'exigence de la libération de Georges Abdallah. Et donc il y a la suite de son jugement qui doit arriver dans les jours qui viennent là. Donc il faut absolument qu'on mette la pression sur le gouvernement pour exiger et obtenir sa libération, enfin, après 40 ans. Et le deuxième, c'est la dénonciation du génocide actuel à Gaza.
Alors avant de commencer, un petit portrait sur vous. Vous étiez où avant? Vous avez commencé comment dans la politique?
Alors dans la politique, j'ai plutôt commencé par le militantisme en fait. J'ai toujours été militant étudiant, militant syndicaliste enseignant. Et puis après, par un, on va dire presque un concours de circonstances, je me suis retrouvé conseiller municipal. Et je le suis toujours d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça m'a amené vers la politique. Mais c'est à la base, c'est plutôt les combats sociétaux qui m'ont poussé à faire ça. Voilà, c'est le syndicalisme, la solidarité avec les réfugiés aussi beaucoup, et la Palestine.
Alors quel est le combat qui vous a fait plus le toucher?
Honnêtement, au départ, c'est la solidarité avec les réfugiés. Je commençais par militer parce que j'ai été touché dans mon école en tant qu'enseignant, mais il y a presque 20 ans, hein, par l'expulsion d'une famille de sans-papiers. Voilà, des élèves qui n'avaient plus les papiers. Et c'était à l'époque de Sarkozy, et c'était difficile. La police, elle était très agressive. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser d'abord au syndicalisme, puis après à la politique.
Et comment vous êtes arrivé ici à Martigues ?
À Martigues, c'est parce que je suis professeur des écoles et il y a les mutations de l'éducation nationale. Voilà. Et en vérité, je suis de Istres, c'est pas très loin, hein. C'est à 10 km même pas. Et donc, c'est pas très loin de ma famille et j'ai pris le poste à Martigues.
Vingt ans après, vous vous retrouvez ici.
Ouais.
Comment vous voyez la France de demain, quoi ?
Honnêtement, le tropisme, je dirais, si un seul mot, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce qu'en réalité, le néolibéralisme, il a pris le pouvoir largement dans la classe politique. Okay ? Donc tout le monde est rompu à l'idéologie néolibérale avec toutes ces conséquences que ça a sur les combats sociétaux, sur les travailleuses et les travailleurs, sur la paupérisation de la société, sur le mépris des classes populaires et aussi à l'international parce que ça nous force à avoir des soutiens, à devoir soutenir des pays comme Israël, par exemple, hein, voilà, que la France en vérité soutient. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Bien qu'aujourd'hui, là, il y a quelques larmes de crocodile qui sont versées parce qu'on peut plus complètement nier la situation des génocides actuels. Ça, c'est plus possible. Ok, personne ne peut le faire. Donc, il y a quelques larmes de crocodile qui sont versées. Mais moi, j'oublie pas qu'il y a un soutien continu de Israël, de la part des pays européens et Amérique, et notamment des États-Unis aussi, mais de la France, il faut le dire. Et c'est ce qui permet à Israël d'avoir les coudées franches. Israël continue la colonisation depuis 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils le font dans une totale impunité au regard des autres pays.
Alors il y a le salon qui va se... Je ne sais pas s'il a commencé, le salon de l'armement.
Ouais.
Ici en France, j'ai oublié quelle région.
Le Bourget.
Non, pas le Bourget, c'est les avions.
D'accord.
Le salon de l'armement.
Ouais.
L'armement. Quelque part en France, après je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Ils ont invité Israël quand même en France.
Mais oui, mais pourquoi ils s'en priveraient en fait ? Ils font ça depuis tout le temps. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est depuis tout le temps. On a reçu. Là on râle sur Netanyahou, mais il n'y a pas longtemps, il était à l'Elysée. Il était à TF1, en plein milieu des bombardements et des massacres. Il était invité à la télé française pour dérouler son truc comme quoi il faut combattre l'islamisme, tatati tatata, et justifier en réalité les annexions de territoire et la destruction totale de sa volonté de destruction totale du peuple palestinien.
Alors, puisqu'on parle de la guerre, le 13 juin. Israël a commencé à bombarder l'Iran.
Ouais.
Comment vous voyez ce conflit très dangereux ?
Oui, alors écoutez, j'étais partagé entre deux arguments. Pour être honnête, le premier sentiment que je me suis dit, c'est punaise, ils voient que la pression elle monte sur Gaza et ils essaient de faire un truc de diversion. Après, je me dis, c'est quand même un gros truc qu'ils ont dû prévoir depuis longtemps. Je pense que ça fait longtemps même que les États-Unis sont contents qu'il y ait ce bombardement de l'Iran. Voilà. On criminalise l'Iran. Alors, bien sûr, il y a des bases idéologiques qui sont entendables, hein, les droits des femmes, la liberté d'expression, etc. Ok, ça je l'entends. Mais si aujourd'hui, sans me voir, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a la crainte que l'Iran devienne très très fort et Israël, pour se protéger, il a commencé par Gaza, ensuite le Liban aussi, il a bombardé le Hezbollah.
La Syrie,
ça fait un moment qu'ils ont dégagé. Oui, bien sûr. Et maintenant, c'est l'Iran. Ils disent qu'ils combattent l'islamisme. Mais en vérité, on voit bien que c'est faux. Regardez en Syrie. On a un nouveau dirigeant qui était un ancien de Daesh. Ça ne les dérange pas du tout. Des fois, l'islamisme, ça ne les dérange pas. Okay, voilà. En Afghanistan, ça ne les dérangeait pas non plus quand c'était pour combattre Massoud. Voilà. Donc en fait, c'est des faux prétextes pour en réalité faire vivre un véritable impérialisme.
Le débat il commence.
Ouais.
Rappelez-moi votre nom et profession.
Bien sûr, Frédéric Grimaud et je suis conseiller municipal à Martigues.
Vous allez intervenir ?
Pas moi, non. Je pense pas, c'est le maire qui va intervenir.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous en prie, c'est normal, merci à vous.
Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je crois. En ce 16 juin et dans le sillage de l'appel lancé par l'Union locale CGT de Martigues, nous voilà de nouveau rassemblés pour dénoncer l'inacceptable. Pour dénoncer le génocide, alors peut-être sociocide, bien sûr, en cours à Gaza, pour dire notre soutien plein et entier à la Palestine et à son peuple. Pardon. Un peuple menacé dans son intégrité et son existence. 54 000 Gazaouis, dont plus de 15 000 enfants, ont perdu la vie sous les bombes israéliennes tandis qu'une famine est délibérément provoquée par le gouvernement israélien qui bloque l'accès de l'enclave à toute aide humanitaire. Un acte odieux, un crime calculé qui pourrait, selon l'ONU, coûter la vie à 14 000 nourrissons et enfants. Osons nommer les choses. Nous assistons ni plus ni moins à un génocide. Les objectifs du gouvernement de Benjamin Netanyahou sont clairement affichés. L'anéantissement et l'effacement du peuple palestinien. Et nous ne pouvons pas nous contenter de postures déclaratives du président de la République ou du gouvernement. Comme nous ne pouvons pas nous contenter d'un simple processus de révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël qui pourrait peut-être déboucher sur une suspension des relations commerciales. Cet accord d'association, et nous l'exigeons, doit être suspendu immédiatement, sans délai, sans trembler, sans hésiter. Si les pays et les gouvernements ne s'engagent pas dans cette voie, ils se rendront complices des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le gouvernement Netanyahou. Ils se rendront complices du processus génocidaire en cours. Il a été possible en 7 jours seulement de prendre des sanctions à l'encontre de la Russie. Et il est temps aujourd'hui que l'Union européenne et avec elle la France décrètent des sanctions économiques. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, sans tarder, avant qu'il n'y ait plus rien à sauver. Désolé. La France, par la faute du président de la République et du gouvernement, ne tient pas son rang. La France devrait, au contraire, montrer l'exemple, prendre la tête d'un large mouvement international pour stopper l'inacceptable. C'est sa vocation. La France devrait prendre exemple sur les pays qui ont eu le courage de stopper leurs relations commerciales avec Israël. La France devrait, à l'instar de l'Espagne ou de l'Irlande, reconnaître enfin l'État palestinien. La mobilisation en faveur du peuple palestinien s'intensifie. Elle prend des formes diverses que nous devons soutenir. Il nous faut poursuivre dans cette voie, alors que Benjamin Netanyahou et son gouvernement tentent de faire oublier l'entreprise génocidaire qu'ils poursuivent en bombardant des sites nucléaires iraniens et en déstabilisant encore un peu plus une région devenue une véritable poudrière. Mais nous le disons, nous ne détournerons pas les yeux. Nous continuerons à nous mobiliser pour la survie du peuple palestinien. Nous continuerons à porter cet espoir de paix qui nous anime. C'est le sens de ce rendez-vous qui nous réunit ce soir. Un rendez-vous que nous plaçons aussi sous le signe, j'y viens, de la solidarité à l'égard de Georges Ibrahim Abdallah, dont le sort ne cesse de nous indigner. Plus que jamais, nous exigeons l'application du droit pour que Georges Ibrahim Abdallah soit enfin libéré. Le sort réservé à Georges Ibrahim Abdallah est d'une grande injustice. Emprisonné depuis près de 40 ans sur le sol français, alors même qu'il est libérable depuis un quart de siècle, Georges Ibrahim Abdallah subit un acharnement politique couplé d'une ingérence étrangère, celle des États-Unis, qui conduit notre pays, la France, à nier les principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis de nombreuses années, nous dénonçons cette situation intolérable. Nous réclamons l'application du droit. Nous exigeons, avec l'humanisme qui nous caractérise, la libération de Georges Ibrahim Abdallah. La date du 19 juin sera décisive et nous sommes là pour rappeler notre vigilance. Nous sommes là pour que cette perspective ne se transforme pas, encore une fois, en espoir déçu. Là encore, la responsabilité de notre pays est immense, car la France peut dès aujourd'hui libérer Georges Ibrahim Abdallah. Alors, ce soir, nous appelons à nouveau le président de la République et le gouvernement à prendre leurs responsabilités, à assumer enfin une position digne de notre pays, de son histoire, de son héritage humaniste. La grandeur de la France, elle s'exprime ce soir sur cette place Jean Jaurès, comme elle s'exprime dans les multiples rassemblements et manifestations organisés partout dans notre pays, pour faire entendre notre exigence de paix. Car conquérir la paix, c'est affirmer un autre chemin, un chemin politique et diplomatique. Conquérir la paix, c'est refuser l'inaction de la France et de la communauté internationale. Et nous sommes le symbole de cette France qui refuse de fermer les yeux et de se taire. Alors, merci pour votre présence et merci pour votre engagement.
D'abord, présentez-vous.
Moi, je suis Frédéric Grimaud, je suis conseiller municipal à Martigues. Je suis aussi membre du collectif de solidarité avec la Palestine. Et il y a les deux raisons qui nous amènent ce soir. C'est le premier, c'est l'exigence de la libération de Georges Abdallah. Et donc il y a la suite de son jugement qui doit arriver dans les jours qui viennent là. Donc il faut absolument qu'on mette la pression sur le gouvernement pour exiger et obtenir sa libération, enfin, après 40 ans. Et le deuxième, c'est la dénonciation du génocide actuel à Gaza.
Alors avant de commencer, un petit portrait sur vous. Vous étiez où avant? Vous avez commencé comment dans la politique?
Alors dans la politique, j'ai plutôt commencé par le militantisme en fait. J'ai toujours été militant étudiant, militant syndicaliste enseignant. Et puis après, par un, on va dire, presque un concours de circonstance, je me suis retrouvé conseiller municipal. Et je le suis toujours d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça m'a amené vers la politique. Mais c'est à la base, c'est plutôt les combats sociétaux qui m'ont poussé à faire ça. Voilà, c'est le syndicalisme, la solidarité avec les réfugiés aussi beaucoup, et la Palestine.
Alors quel est le combat qui vous a fait plus le toucher?
Honnêtement, c'est la solidarité avec les réfugiés. J'ai commencé par militer parce que j'ai été touché dans mon école en tant qu'enseignant, mais il y a presque 20 ans, hein, par l'expulsion d'une famille de sans-papiers. Voilà, des élèves qui n'avaient plus les papiers. Et c'était à l'époque de Sarkozy, et c'était difficile. La police, elle était très agressive. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser d'abord au syndicalisme, puis après à la politique.
Et comment vous êtes arrivé ici à Martigues?
À Martigues, c'est parce que je suis professeur des écoles et il y a les mutations de l'éducation nationale. Voilà. Et en vérité, je suis de Istres, c'est pas très loin, hein. C'est à 10 km même pas. Et donc, c'est pas très loin de ma famille et j'ai pris le poste à Martigues.
Vingt ans après, vous vous retrouvez ici.
Ouais.
Comment vous voyez la France de demain, quoi?
Honnêtement, hein, le tropisme, je dirais, si un seul mot, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce qu'en réalité, le néolibéralisme, il a pris le pouvoir largement dans la classe politique. Okay, donc tout le monde est rompu à l'idéologie néolibérale avec toutes ces conséquences que ça a sur les combats sociétaux, sur les travailleuses et les travailleurs, sur la paupérisation de la société, sur le mépris des classes populaires et aussi à l'international parce que ça nous force à avoir des soutiens, à devoir soutenir des pays comme Israël par exemple, hein, voilà, que la France en vérité soutient, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Bien qu'aujourd'hui là, il y a quelques larmes de crocodile qui sont versées parce qu'on peut plus complètement nier la situation des génocides actuels, ça c'est plus possible, ok, personne peut le faire, donc il y a quelques larmes de crocodile qui sont versées, mais moi j'oublie pas qu'il y a un soutien continu de Israël, de la part des pays européens et Amérique, et notamment des États-Unis aussi, mais de la France, il faut le dire, et c'est ce qui permet à Israël d'avoir les coudées franches. Israël continue la colonisation depuis 70 ans, pourquoi? Parce qu'ils le font dans une totale impunité au regard des autres pays.
Alors il y a le salon qui va se... Je ne sais pas s'il a commencé, le salon de l'armement.
Ouais.
Ici en France, j'ai oublié quelle région.
Le Bourget.
Non, pas le Bourget, c'est les avions.
D'accord.
Le salon de l'armement.
Ouais.
L'armement. Quelque part en France, après je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Ils ont invité Israël quand même en France.
Mais oui, mais pourquoi ils s'en priveraient en fait?
Pour nous deux dans cette rue, les 4x4 veulent toutes me foncer dessus. Y'a pas de place pour nous deux dans cette rue. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus.
pobija serce me. Bo brutalnie odrzuciłeś mnie. Nie liczyłam się dla ciebie nic. Jak ja mogę teraz żyć?
N'oubliez pas que vous êtes toujours sur les ondes de Radio Galère au 88.40 avec la compagnie des Haraga. Allez, une autre pause musicale avec Ammar Zahir. Khalikou Chouet Straho, Hagda. Une pause musicale, après on reprend.
Yemen Fikr Raja, Walika Tikal. La Tahoudini Yakrim, Lima Yirtali. يا العالم بسرر القلب يا المتعال وانا ما ندير غيرك في بالي مهما يقولوا تساكني ويضيق الحال نسعك ولا يخيب عندك سؤالي البخاري حديث نبي الله قال مصطفى الشفيع ختم لرسالي يذني بعد العمد والخطأ لا تعذب.
Deux ans après, le maire de Marseille, tendance communiste, est sorti de sa coquille.
Guess every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort him. Friend who's feeling down, but he knows where she's going as she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't hide your lying eyes and your
same old.
Et oui, retour en arrière, les Eagles. Ça nous fait rappeler la belle époque. C'est kiff kiff les années d'Ammar Zay. Voilà, les haragas sont ouverts, hein. Universels. Tout de suite, nous donnons la parole à Bernard Genet, géopolitique et parole de citoyen.
Bernard, bonjour.
Bonjour, Kamar. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle manifestation. Là, je ne sais pas combienième. On en a fait quoi, presque 100 maintenant des manifs palestiniens, ouais, le Damli, ouais. Quelque chose comme ça. Bon, on est là.
Alors si... aujourd'hui, le thème c'est quoi exactement?
Alors le thème c'est, on pourrait dire quelques mots sur la caravane et sur le bateau à raisonner, mais sans aller plus loin, c'est-à-dire que des bateaux qui ont tenté de l'aventure de rentrer dans les eaux territoriales israéliennes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il n'y en a aucun qui est arrivé à destination. Même la Turquie, qui avait envoyé il y a quelques années un bateau pour l'aide alimentaire, eh ben, elle n'a rien fait parce que ce bateau a été arraisonné. Tant qu'il n'y a pas un État palestinien avec un gouvernement et des frontières définies, quand on arrive aux abords de Gaza, on est dans les eaux israéliennes. Et donc Israël se permet tout ce qu'il veut. Même s'il le fait un peu en dehors des eaux, mais il est chez lui, il n'y a pas d'État palestinien officiellement constitué. Et donc la force prime le droit. Il n'y a pas de droit palestinien. Donc ce bateau ne me plaît pas, voilà, je l'arrête. Point. Alors, à la limite, ils ont traité ça, j'allais dire, gentiment, parce qu'ils avaient d'autres préoccupations, on en parlera après. On arraisonne le bateau, on les amène à terre, après on discute avec leur gouvernement pour les renvoyer, on leur a pas tapé dessus, on les a pas trop maltraités, ça reste. Mais ça reste une opération qui, de toute façon, ne pouvait pas réussir. En dehors de l'aspect alimentaire, ce n'était pas les quelques tonnes de marchandises qu'il y avait sur le bateau. Si elles avaient été distribuées, ils auraient nourri 10 familles à Gaza. Ce n'était pas à l'échelle. Donc c'était une démonstration dont les précédents montraient que n'arrivaient pas à leur but. Israël ne laisse pas arriver des bateaux étrangers dans ses eaux, point. Et là, il a fait, il aurait pu, à la limite, faire un trou dans la coque et ils seraient tous morts. Il n'a même pas besoin de ça. Il a même, regardez, il a les huit qui dit, ça va vexer un certain nombre de gens, qui disent, c'est des enfantillages. Oui, à l'échelle de la politique internationale, c'est des enfantillages. Alors, je tire un coup de chapeau au médecin marseillais qui était sur le bateau, qui était là pour soigner si ses camarades avaient eu des soucis. Je tire un coup de chapeau, mais c'est tout, vous n'alliez nulle part. Efficacement, vous n'alliez nulle part. Vous l'avez fait, on a parlé de vous, c'est bien. Ça ne va pas au-delà de parler de la Palestine et de Gaza, pas plus. Alors, c'est bien qu'on en parle encore plus, mais nous, ça fait presque 2 ans qu'on en parle tous les dimanches, on en parle sur tous les médias. On n'a pas attendu qu'il y ait ce petit bateau qui vienne pour en parler. On a fait le travail bien avant. N'en parlons plus, je ne leur veux pas de mal, c'était condamné à ne pas réussir, point. C'est une mauvaise analyse des rapports de force politiques internationaux. C'est tout. Voilà. Donc, j'en veux pas à ceux qui se sont embarqués là-dedans, mais simplement, ils étaient sur une opération de pure communication qui ne pouvait pas réussir au niveau de l'aide matérielle aux Palestiniens. Point. Voilà. Et puis, donc, on en est aujourd'hui, une fois que ça s'est classé, on en est aujourd'hui rentré dans une période totalement différente, c'est-à-dire que depuis jeudi, dans la nuit de jeudi à dimanche, Israël a commencé la guerre à l'Iran. Alors l'Iran, ça reste l'ennemi désigné dès le début. c'est plus la Syrie puisqu'elle a disparu dans la bataille, c'est plus ni la Jordanie ni l'Égypte qui ont signé des traités de paix, c'est plus les émirs, bien entendu, qui parlent et qui envoient de l'argent un peu.
Ils circulent avec les slips.
Voilà, exactement. Ouais, exact. Bon, donc il y a un seul adversaire et Israël en est tellement conscient qu'il a toujours désigné Iran comme son adversaire, l'unique adversaire, l'unique dont il a peur. Pourquoi il en a peur? Parce que ce qui est en train d'arriver le prouve, l'Iran s'est préparé avec toute son intelligence, avec ses moyens matériels, malgré l'embargo, s'est préparé à l'attaque dont il a été victime il y a 48 heures. Alors il s'y est préparé politiquement, en passant des accords avec la Russie, en passant des accords avec la Chine, en rentrant donc dans une alliance stratégique avec la Russie, donc il s'y est préparé. Alors, est-ce qu'il savait quand est-ce que le coup israélien allait venir? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a eu un effet de surprise? Alors, il y a différentes positions là-dessus sur l'effet de surprise. De toute façon, maintenant, cet effet de surprise est passé et l'Iran, dès le lendemain, a montré qu'il avait les capacités de ne pas baisser les bras après la première attaque. Alors, la première attaque, qu'il faut caractériser comme visant principalement l'état-major politique et scientifique de l'Iran. Il ne s'agissait pas de tuer des civils. Il y en a eu depuis des civils de tuer dans des villes, etc. Mais l'objectif, c'était de décapiter le régime iranien. Couper des têtes. C'est ça, c'était ça la logique. Alors quand on fait la liste, je ne peux pas donner la liste de tous les responsables iraniens qui ont été liquidés dans la première nuit, c'était bien ça l'objectif. C'était des gens qui n'étaient pas préparés, qui étaient chez eux, qu'on est allé trouver chez eux, et on les a liquidés. Donc c'est l'opération d'assassinat politique de masse calculée. Ça c'est tout à fait clair, et l'espoir étant du côté israélien que la décapitation de l'état-major iranien, l'état-major politique et militaire et scientifique au niveau des connaissances nucléaires, allait faire qu'ils allaient abandonner, qu'ils allaient baisser les bras. Or, c'est pas du tout le cas. Ceux qui ont été assassinés ont été remplacés quasiment dans le quart d'heure. Donc, il y a des gens derrière, ils avaient prévu, il y a des doublures, il y a des numéros 2, il y a des numéros 3 et tout. C'est pas ça qui va les arrêter, parce qu'ils savent de toute façon, c'est la survie de l'Iran qui est en jeu. Bon, allez, un de moins, un de moins, un de moins. Bon, ils n'avaient pas pensé que les Iraniens y avaient réfléchi aussi.
C'est pas des Arabes. Hein,
voilà, c'est pas des Arabes. Et donc, c'est un pays organisé, structuré, qui a une religion d'État. Alors, il y a des gens qui ont comparé Téhéran d'aujourd'hui à Belgrade de 1991. Pas du tout, parce que le régime serbe, il était totalement désarmé, il n'a d'ailleurs rien pu faire. Il a pris les bombes et puis c'est tout. Là, l'Iran, c'est pas du tout le cas. L'Iran a été préparé, l'Iran a l'armement pour se défendre, l'Iran a les capacités militaires, stratégiques, tactiques, industrielles. Il sait fabriquer ses missiles, il sait fabriquer ses drones, ça ne lui enlèvera pas. Et ça, les Israéliens, ça, et c'est ça qu'ils voulaient détruire en disant, on les casse, il n'y aura plus rien. Alors, ils ne sont pas cassés, et donc maintenant, la guerre est commencée. C'est ça la conclusion. La guerre est commencée. Alors, il faut savoir que cette guerre, elle est surveillée comme l'huile sur le feu par le monde entier. Bien entendu, par les États-Unis qui ont prêté la main à l'opération israélienne. Couverture satellite, bombardier de ravitaillement, etc. Parce que c'est un peu loin, quand même, d'Israël, l'Iran. Il faut un ravitaillement en vol. Donc, l'implication des États-Unis est évidente. Et le fait que Trump tienne comme d'habitude un discours où il dit « attention, ça va être grave », etc., montre qu'il sait tout et qu'il ne dit rien. Hein, c'est clairement. Alors, il dit des espèces de phrases où chacun comprend ce qu'il veut. Les phrases de Trump, il faut considérer que ça va directement à la corbeille à papier. Que fait concrètement l'armée des États-Unis et que font concrètement les services de renseignement des États-Unis? Ce qu'ils font concrètement, c'est donner les moyens d'information à l'aviation israélienne d'aller là où elle a décidé d'aller. Et la liste, tu parlais de la liste du jeu de cartes de Bush, je pense qu'elle était déjà prête, que les États-Unis et Bush l'avaient eue sur son bureau, et c'est là qu'ils ont frappé. Des gens qui n'étaient pas protégés, donc ils sont tous, pratiquement toute la liste a été éliminée. Bon, le problème c'est que l'Iran n'est pas idiot, il y a une deuxième liste, il y a même certainement une troisième liste, et donc ça ne s'arrêtera pas. De toute façon, il est clair, et je crois que Khamenei l'a dit aujourd'hui, la guerre est commencée, on est prêt. Vous l'avez voulu, on commence. Parce que les Israéliens, quand même un peu prudents, ont tapé sur des installations nucléaires, mais en surface, ils n'ont pas réussi à toucher les stocks d'uranium enrichi. Alors à propos du Rhin en Russie, il faut s'arrêter sur le rôle ambigu, non même le rôle, le menteur tragique de l'Organisation internationale d'énergie atomique. C'est-à-dire qu'il faut savoir, la veille du début des bombardements, dans la matinée de jeudi, donc avant les bombardements israéliens qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, alors, celui qui a mis le feu, non, il n'a pas mis le feu aux poudres, c'était programmé. L'intervention de l'OIEA, donc ça c'était jeudi matin, consistant à dire, dans le vocabulaire ambigu de son président, M. Raphaël Grossi, alors il est ambigu en permanence, c'est-à-dire, oui, ils ne sont pas très très loin, peut-être ils pourraient y arriver en quelques jours, en quelques heures, j'en sais rien. Ça, ce n'est pas un propos sérieux d'une organisation qui est une organisation scientifique, qui devrait dire, ils en sont à ça, ils peuvent y arriver, mais on ne dit pas, peut-être bien, ils vont devenir dangereux, on ne sait pas quand, etc. Ça, ça veut dire, c'est le feu vert, vous pouvez y aller, parce que nous, on sait très bien où ils en sont. Alors il faut savoir que les inspecteurs de l'OIEA ne vont plus en Iran depuis que les accords ont été dénoncés, mais je pense que les espions du Mossad y vont à leur place, avec les bonnes adresses, les bons endroits où il faut aller, il n'y a pas de souci. Donc le rôle de cette organisation, il faut dire aussi, c'est une organisation qui va dans le sens de la politique des États-Unis, c'est-à-dire montrer l'Iran du droit, l'Iran est coupable, l'Iran veut la bombe. Et l'Iran pourra dire pendant 50 ans, mais je ne veux pas la bombe, je ne l'ai pas fait. Il y aura toujours ce monsieur, M. Grossi, dont j'espère que les jours maintenant sont comptés à la tête de cet organisme. Il sera remplacé, bon, c'est pas grave pour lui, il est bien payé. Mais ce rôle a été l'annonciateur, c'est-à-dire tout est prêt, on va y aller. On a dit qu'ils allaient presque l'avoir, et donc ça suffit pour que Netanyahou se déchaîne. C'était ça le dispositif. Alors, Netanyahou se déchaîne. Ce qui a été fait donc, dans la nuit de jeudi à vendredi et dans les nuits suivantes, ce n'est pas quelque chose qui se prépare en 48 heures. Il faut mobiliser les avions, les missiles, etc. Il faut viser ce qui a été la première attaque contre l'Iran. Le premier moment de l'attaque, ça a été de détruire la défense antiaérienne de l'Iran. C'est-à-dire dire, on va d'abord abîmer les radars, détruire les radars. C'était ça les premières cibles. Une fois que les radars sont détruits, on peut y aller, tout passe. Ça n'a pas marché suffisamment, et donc il restait des radars, et je pense que peut-être d'autres pays ont fourni des informations. Je n'exclus pas, même s'ils s'en vantent pas, que la Russie leur ait dit « Attendez, nous on va vous aider, on va faire une couverture satellite, et on va vous dire ce qui se passe ». Mais la Russie ne dira rien pour l'instant, parce qu'elle ne veut pas s'impliquer officiellement dans la guerre. Pour l'instant, la guerre est circonscrite entre le bloc occidental, je dis bien le bloc occidental, à l'exclusion, je le souligne, du Japon qui est très très mal à l'aise. Pour des raisons historiques, le Japon est très très mal à l'aise et son nouveau gouvernement, le Premier ministre comme le ministre des Affaires étrangères, dès l'instant où il y a un risque d'utilisation de l'arme atomique, les Japonais, ça les rend malades. Ça les rend malades parce qu'ils ont 45 dans la tête et dans le sang. Et donc, ça c'est épouvantable, il ne faut pas que ça arrive. Mais à part ça, les Macron, les Starmer, les Merkel, tout cela, Macron a encore dit, Israël a le droit de se défendre. Se défendre contre quoi? Israël a attaqué, Israël subit une riposte, Israël n'a pas le droit de se défendre. C'est l'Iran qui a le droit de se défendre. Je retourne totalement le propos maintenant. L'Iran est attaqué, il a le droit de se défendre. Pourquoi il y aurait un seul pays qui aurait le droit de se défendre qui s'appellerait Israël? Donc tous les pays ont le droit de se défendre. C'est d'ailleurs prévu dans la Charte des Nations Unies. Un pays attaqué a le droit de se défendre. Il est en règle avec le droit international. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est clair. Voilà, en gros, la situation alors, qui est extrêmement ouverte, mais les derniers événements, là, ce qui s'est passé encore cette nuit, montre bien que l'Iran n'a pas été rayé de la carte, l'Iran a encore des capacités. Il a été aussi démontré qu'Israël, maintenant, une fois qu'il avait éliminé les cartes du jeu dont on parle, se mettait à attaquer tout bêtement un hôpital pour enfants. Ah bon? Et les civils ont... Ah oui, bon, c'est pas grave, un hôpital pour enfants. Comme on fait à Gaza, c'est-à-dire que pour les sionistes aujourd'hui...
Donc même Israël, elle n'est pas à l'abri.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, c'est comme Gaza, maintenant, Téhéran, c'est comme Gaza, on voit un hôpital pour enfants, on tire dedans. Bravo, le droit de se défendre. Bon, donc, là, tous les masques sont en train de tomber. Le masque états-unien, le masque de Netanyahou et des sionistes, il ne reste plus que la réalité de la guerre qui est voulue depuis longtemps, à laquelle les Iraniens se sont préparés de leur meilleure façon possible, même si ça va leur coûter, et le monde entier est face à cela. Avant que d'autres interviennent. On peut imaginer, par exemple, tu parlais tout à l'heure du Pakistan. On peut parler d'autres pays, mais en particulier du Pakistan, qui est voisin, je rappelle, qui, très clairement, à la suite de l'attaque indienne qu'il a subie il y a en gros un mois, sait très bien que le monde s'est vraiment coupé et que lui, il va apporter de l'aide au régime iranien. Même si ils sont pas chiites, ils sont pas ci, ils sont pas ça. C'est le monde musulman, c'est le Moyen-Orient globalement qui est attaqué. Et donc, il faut que nous défendions tout ça. Alors, quelle forme ça va prendre? Je rappelle, parce que ça peut être dit sur la question des rapports entre le Pakistan et la Chine, qu'à un moment donné, on a été très surpris d'apprendre que l'aviation pakistanaise, avec des avions de moins bonne qualité, moins avancés, avait réussi à abattre des rafales. Alors, ce n'était pas dû à la capacité du seul avion. C'est-à-dire la capacité des renseignements, des systèmes de radar chinois qui permettaient de dire à l'avion pakistanais, il va t'arriver un missile de ci ou de là. Les jours qui viennent vont être décisifs sur l'évolution de ce conflit, mais c'est clair que maintenant, toutes les cartes de la guerre globale sont sur la table. Je ne pense pas que dans les jours qui viennent, les grandes puissances se mettent directement de la politique, mais toutes auront une influence sur le déroulement de s'affrontement. Et puis, il faut que l'Iran tienne. Il a subi un premier choc extrêmement dur. Il faut qu'il tienne, parce que c'est autour de lui que la situation mondiale bascule. Et donc, l'impérialisme subit un échec total, malgré les pires méthodes dont il est capable de se servir. On le voit tous.
Merci Bernard.
Je t'en prie, Kaba. Je t'en prie.
Vous envoyez où le message là?
Non, j'envoie directement, sur Facebook. Direct.
Ah ouais, ah, ouais. Vous êtes de Marseille?
Oui. Ouais.
Depuis quand vous venez à la manif, vous?
Ben nous, quand il y a à chaque fois pour la Palestine et pour donc on manifeste, quand même on est là pour eux, on n'oublie pas.
Vous aussi.
Ben on est deux sœurs.
Ouais,
nous, on se suit.
Des jumelles, non?
Non. Non, pas du tout.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette guerre entre l'Iran et Israël?
Ça a été voulu.
C'est la folie, hein.
Ça a été voulu. Ça a été prétexte. Hein.
Moi, pour s'emparer de tous les pays.
Moi, je pense qu'ils essayent de s'emparer
de tous les. C'est le prétexte. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi.
Ils veulent détourner de.
Ben là, maintenant, la Palestine, étant donné qu'ils ont fait leur boulot, leur travail, ils ont, en parlant vulgairement, ils ont fini leur boulot. Maintenant, ben, disons que voilà.
Mais l'Iran, c'est un autre calibre quand même.
Ben, j'espère qu'ils vont leur mettre une bonne tannée. Franchement, je le souhaite. Parce que je suis contre les guerres, je suis contre qu'on fasse du mal, tout ça. Mais là, eux, ils en ont rien à foutre. Que ce soit des enfants, que ce soit n'importe qui, enfin, je ne sais pas.
Mais pour arrêter, il faut que le peuple israélien sorte manifester contre Netanyahou.
J'ai l'impression qu'ils sont d'accord aussi parce qu'on ne les voit pas.
Passons déjà bien avant qu'il y ait cette histoire de 7 octobre. Jamais vous voyez des sionistes manifester en disant non, c'est injuste. Au moins qu'ils aient leur terre, qu'on est tranquille, qu'on vive chacun chez soi, mais tranquillement. Ben non, ça les arrangeait aussi, hein, qu'ils vivent comme ça, les Palestiniens. Hein.
Comme des animaux.
Pire que des animaux, parce qu'un animal, vous le traitez bien, un animal. Et là, sa piole, il ne les laisse même pas manger, il ne laisse même pas l'aide alimentaire rentrer. C'est pour les affamer exprès. C'est pour les tuer, c'est tout.
Bah écoutez, j'ai jamais vu ça, même quand il y avait Hitler, la guerre qu'il y avait les Juifs là, avec les Allemands, ben je sais pas, on dirait qu'eux ils font plus encore.
Et encore eux, ils n'ont rien à voir.
Voilà.
Les Palestiniens, ils n'ont rien à voir.
Les Palestiniens, attendez, c'est un peuple qui était chez eux.
C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne qui sont derrière le massacre des Juifs.
Mais parce qu'ils se sentent protégés aussi. C'est normal, s'il n'y avait pas les Américains et les Anglais, je pense qu'ils ne feront pas ça. C'est normal, ils sont protégés. Même la France aussi, elle les protège. Hein.
La preuve, c'est que quand on parle de quelque chose sur la Palestine, de suite, on est considéré comme apologie du terrorisme.
Antisioniste.
On connaît.
Antisémite, plutôt.
Antisémite, le Hamas, le 7 octobre. On connaît la chanson, c'est toujours le même refrain. Ils l'ont appris par cœur. Ils sont robotiques.
Non, j'ai l'impression qu'ils font le lavage du cerveau pour les enfants dès qu'ils sont tout petits. Ouais. Parce que franchement...
Mais déjà, ils apprennent à haïr des petits, ils apprennent à haïr les Palestiniens. Alors, ils leur donnent une image négative des Palestiniens.
Les Palestiniens, ils n'ont rien fait. Voilà. Ils étaient chez eux, ils arrivent à... Non, mais... En 1949, ils leur ont donné, en plus, ils étaient éparpillés à gauche, à droite. Ils leur ont donné quand même un pays. Ils n'ont qu'à garder leur pays. Et l'autre partie...
Mais moi, j'ai dit, pourquoi ils ne sont pas restés en Allemagne? C'est eux qui les ont massacrés.
Eh bien oui, mais bon, ils leur ont donné, je ne sais pas, mais... Je veux dire, ils veulent carrément tout le côté, ils le veulent pour eux, eux, pour s'agrandir, pour dire qu'on est fort, qu'on est grand, qu'on est... Mais ce n'est pas leur pays. Je fais que ça me met dans la tête que ce n'est pas leur pays. Il ne faut pas, c'est des voleurs, c'est des monstres. Ah oui, c'est des monstres, monsieur. Franchement, attendez, avant je disais les pauvres, avant, vous savez, les juifs, tout ça, mais maintenant ils font pareil que qu'ils ont fait les Allemands pour eux. Ils ont oublié tout ça. Est-ce qu'ils ont oublié tout ça? Hein? Chambre à gaz, ils ont oublié tout ça. Et maintenant ils font ça aux Palestiniens.
C'est les colons.
C'est les colons qui viennent de... Pas les gens qui ont vécu avec les Palestiniens et tout ça. Ouais. Moi, je parle des sionistes, monsieur. Voilà, je parle pas du juif, le vrai juif, le juif qui a vécu. On a vécu, nous aussi, en Algérie avec eux. On était frères et sœurs, on était... Hein. Ouais, je veux dire, ma mère, elle m'a raconté, elle me dit, on dirait des frères et sœurs. Et maintenant, ils arrivent, ce peuple, je sais pas, c'est des peuples de monstrueux, là, je sais pas, ils sont pas humains. On dirait qu'ils sont des robots. C'est des robots. Vous savez, même un oiseau, moi, il me fait de la peine que tu aies meurt. Mais eux, un être humain, je sais pas. Ils ont pas de cœur, ils sont monstres. Oh, horrible, horrible. Franchement, c'est horrible, monsieur. Moi, ça me rend malade. Depuis ça, je vous assure, je suis devenue un peu stressée parce que je supporte
et
pas
moi,
ça.
Et aussi, on devient haineux.
Et oui, c'est ça.
C'est vrai, autant que...
La violence engendre la violence.
Bien sûr, quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible que les gens ils soient comme ça. Je sais pas. Ils auraient été le contraire, je vous assure que j'aurais été pareil.
Oui,
non, mais c'est pas possible. Si ça aurait été, par exemple, peu importe, moi je vous dis, peu importe la religion, ça aurait été un autre pays comme ça, ou une autre religion, que je vois qu'il y a de l'injustice, eh bien, j'aurais manifesté pareil. Parce que c'est injuste. Regardez. Voilà. C'est comme pour les Arméniens.
Ouais.
Les Arméniens, moi, je trouve ce qu'ils ont souffert, ah ben c'est les pauvres.
À ce jour, hein,
voilà.
Maintenant.
Voilà.
Maintenant.
Voilà. Et les Kazakhs, ce qu'ils ont fait aux Arméniens, c'est pas bien. Voilà. Même les Kazakhs, pourtant les Kazakhs, c'est des musulmans. Et les Arméniens, c'est pas des musulmans. Eh bien, je suis contre ce qu'ils ont fait, les Kazakhs, de les mettre dehors comme ils ont fait. Voilà.
Oui.
Voilà, votre juste.
Nous, on est pour la paix, monsieur.
Oui, voilà. Bien sûr.
Pour la justice, c'est
nous,
tout.
Nous, on est
chacun.
Moi, c'est les Algériennes, les femmes algériennes.
On est algériennes, nous, hein.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, hein.
Les femmes, je parle.
Oui.
Nous, on est là.
Vous êtes des bouhérettes.
Non, nous, on est un nabi de Hanaba.
Oui, oui, mais c'est pareil. Les femmes en général.
Alors,
hein. Les femmes algériennes.
Je laisse pas, nous, hein. Moi, je dis même si je dois me traîner par terre, on monte quand même, je me lève.
Merci beaucoup.
De rien, monsieur.
Merci. Allez,
bonjour.
Merci.
Enfin, moi, je m'appelle Tariq.
Qu'est-ce qu'il y a à présenter? C'est la troisième fois que je viens. Et en fait, ça me préoccupe tellement que je me disais, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, j'ai eu cette idée-là de ramener un car que j'utilise en règle générale comme camping-car, mais que j'ai habillé pour la manifestation.
Donc, vous avez habillé avec le drapeau palestinien?
C'est ça. Exactement. Je suis venu avec mes... avec deux de mes fils, ouais, les plus grands. Voilà.
Et vous êtes vous êtes à fond avec la Palestine?
Oui, à fond, on soutient tout à fait.
Ouais,
depuis le début.
Depuis quand?
Depuis le début que les manifestations commencent, qu'on est en plein dans le sujet.
Et le bus, il vient d'où exactement?
Le bus, on l'a acheté il y a 2-3 ans pour nous, parce qu'on est une grande famille.
Oui.
Mon épouse et moi, et puis après, on a 4 enfants et bientôt 5. Et donc, on a acheté ce bus, nous, à la base, en aménagement, quoi, comme un camping-car.
C'est tout. Vous êtes frappé par ce qui se passe en Palestine, et donc vous avez quel âge?
12 ans.
12 ans, vous appelez comment?
Tamsir.
Tamsir?
Oui.
Ils portent tous les noms arabes ou quoi? Non, c'est pas une insulte, hein. Parce que je désigne l'arabe, les pays du Golfe, là. Et les autres, c'est les maghrébins. C'est,
ouais, moi, je m'appelle Tariq, mon premier prénom. Ouais. Et mon deuxième, c'est Renaud.
Ok.
J'ai les deux cultures françaises.
Renaud et Chausson, Berlier.
Et Lesbéton, voilà, et tout ça. Voilà. Ouais. Mais j'ai des enfants, tous leurs prénoms, ils ont un peu de.
Mais vous êtes.
D'origine turque.
Ok, bien sûr.
Et ouais, français.
Fallait me le dire.
Ouais.
Donc,
là-bas.
Donc, vous. La Palestine, ça veut tourner la tête.
C'est... Ouais, c'est abusé ce qui se passe. On s'en rend compte beaucoup sur les réseaux. On peut voir beaucoup sur les réseaux ce qui se passe, tout ça, on s'enseigne. Et que il y a beaucoup de malinformations, on peut voir aussi. Ce qui est vraiment dommage, et on est là pour changer ça.
Vous aussi?
Oui. Mais moi, j'ai pas les réseaux, du coup, je vois pas.
Ouais, mais est-ce que vous êtes au collège ou à l'école ou...
Au collège.
Et avec les enfants, est-ce que vous leur dites, vous leur parlez, ils s'intéressent, rien?
Non, pas trop.
Pas trop.
Non, il y a 58% de RN à Riens, c'est bof.
Eh oui, c'est ça, parce que vers Aix, Fréjus, tout ça, Pertuis, la Tour d'Aigle, c'est l'extrême droite qui chasse les lapins.
C'est ça, nous, la commune où on habite,
ouais.
le FN, il passe au premier tour. Donc c'est pas très confortable, mais je m'en fous. Et peut-être qu'on va même faire un truc carrément dans le village, même si ça fait de la provocation, c'est pas grave. Parce qu'il faut que les gens ils se préoccupent un peu d'autre chose que d'eux-mêmes.
Ouais, exactement.
Voilà, c'est tout simplement ça. Hein.
Donc vous n'aimez pas l'injustice, c'est pour ça que vous êtes...
Ah oui. Complètement. Moi, je suis apolitique, hein. Je m'en fous. Là-bas, là-bas, je ne veux pas en parler, ça me fait paniquer quand j'en parle, mais c'est pas possible.
Oui, mais je connais ces régions-là, la Tour d'Aigle, Pertuis, Gdas.
C'est chaud.
Ouais.
Ah oui, c'est chaud. Après, là, il y a Pugé sur Argent, il y a eu l'homicide. Je ne sais plus comment je ne me rappelle plus de son nom, mais un crime raciste, c'est à 45 minutes de la maison.
Et là, hein.
Et chez nous, il y a des chasseurs et tout. Donc, c'est pas hyper rassurant.
Chasse, merde.
Et on ne sait pas ce qu'ils chassent. Ils chassent des lapins, ils chassent des sangliers, mais des fois, tu viens avec le drapeau palestinien, tu sais pas. Peut-être qu'ils vont te chasser toi aussi, tu sais pas.
Ben oui, exactement. Écoute, bon courage, hein. Et vous aussi, prenez le flambeau de votre père.
C'est ça. On est en plein dedans, là.
Voilà. Merci beaucoup.
Take time, I know it, but in a while, you're gonna be mine, I know it, we'll do it in style, cause I'm
Donovan sur les ondes de Radio Galère au 88.4, bien sûr avec la compagnie Les Haraga. Allez, cette fois-ci, vite, on va à Verpres, le VIF. Donc, chaque année, vous savez, le VIF organise des fêtes pour enfants. Vous allez suivre le reportage qu'on a réalisé.
Alors, dis-moi ton nom et qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Fatoumata, oui. Et je suis venue accompagner mon frère et moi avec mon père.
Et ton frère, il est là depuis quand?
Depuis 7 ans.
Et comment tu trouves ce centre?
Très bien, c'est beau, tout ça, ouais. J'aime bien.
Et les jeux, est-ce que tu as participé un peu avec les jeux?
Oui, comme pour gagner un bubble tea gratuit.
Ouais. Et le centre, il est beau ou non le centre?
Oui, il est très beau.
Et qu'est-ce que vous allez dire aux Marseillaises qui nous écoutent?
Allez.
Aux enfants qui ont ton âge, qu'est-ce que tu vas leur dire?
Amusez-vous et profitez. Hein.
Merci beaucoup.
De rien.
Voilà.
Va prendre ton violon.
Non, je suis pas d'accord.
Va prendre ton violon, qu'est-ce que tu fais?
Rappelez-moi d'abord votre nom.
Sacha.
Sacha, faites quoi exactement?
Moi, je suis apprenti ici.
Apprenti?
Je suis apprenti, je suis en train de passer mon diplôme d'éducateur spécialisé.
Ah bah très bien. Alors là, vous faites un travail de dingue, je vous ai vu avec les enfants là ici.
Ouais.
Vous faisiez des ateliers rap, quoi exactement?
C'est ça.
C'est quand même, c'est pas facile.
Alors, du coup, ça, j'ai commencé l'année dernière à faire un premier atelier d'écriture avec la plupart des jeunes que vous avez vus là sur scène. Et... bah, c'est un truc qu'on a bien accroché avec les jeunes, ça leur a plu et tout. Donc du coup, cette année, on s'est dit on allait refaire la même chose. Donc on a fait des sessions d'écriture un peu tout le long de l'année. Et pour finaliser, entre guillemets, là, la finalité du projet, c'est de monter sur scène devant tous les parents qui puissent bah, justement voir leurs enfants bah, se régaler en fait. C'est un peu... c'est la journée, on va dire, pour moi en tout cas, c'est la journée où... On s'amuse quoi. Là, on n'est plus forcément que dans l'éducation ou l'accompagnement. Pour moi, c'est s'amuser.
Là, c'est bizarre parce que j'ai vu avant la fille, je lui ai posé quelques questions là au stade.
Oui.
Elle m'a dit on va faire du rap. Elle a écrit ceci. Je ne savais pas que c'était vous. Bon, maintenant c'est vous. Donc, mais sur scène, vous étiez avec eux.
Oui.
Vous les dirigez. Mais tout le monde était en harmonie.
C'est exactement ça. Ouais. C'est comme ça, on se met tous à la même échelle. L'écriture, le rap aussi, c'est quand même quelque chose qui rassemble. Et du coup, bah voilà, moi, c'est juste passer un moment avec eux et de sortir un peu de la personne, du rôle que j'ai tout le long de l'année.
D'enlever votre
casquette d'éducateur, voilà. D'apprenti. Et c'est ce qui me plaît en vrai. Je pense que tous les éducateurs, même tous ceux qui travaillent ici, c'est quand même une des journées les plus, bah, la plus belle pour moi. C'est la plus belle journée de l'année qu'on fait à l'IME.
Et c'est vrai, quelle est l'astuce magique avec ces enfants qui ne sont pas comme les autres, qu'on arrive à les aimer?
Bah, après, en fait, on crée... Une certaine attache, on va dire, on crée un lien. S'il n'y a pas de lien qui est créé, c'est difficile d'accompagner les jeunes. Et je pense même dans la vie quotidienne, que ce soit avec n'importe qui, s'il n'y a pas d'attache avec la personne qu'on a en face de nous, c'est compliqué aussi de pouvoir accompagner.
Donc on va parler de Sacha. Vous faites quoi dans la vie? Comment vous êtes venu au rap? C'est pas venu comme ça quand même.
Moi le rap, bah, j'écoute beaucoup de rap, donc j'adore ça. Et ça m'est venu un peu comme ça. J'ai proposé avec les jeunes de voir s'ils avaient envie qu'on écrive un texte. Et ouais, voilà, ça s'est fait tout seul en vrai. Parce qu'après, je ne fais pas que les ateliers d'écriture. Il y a beaucoup de comment on dit, d'activités un peu techniques, comme on dit. C'est fait un peu pour préparer, entre guillemets, certains jeunes qui ont des orientations ESAT où ils vont pouvoir aller dans le monde du travail. Donc là, ça va être plus des ateliers techniques. Donc nous, par exemple, on a fait le nettoyage auto où on nettoie le véhicule du personnel contre une petite rémunération. À la fin de l'année, on a une enveloppe et les jeunes qui ont participé à l'activité, on partage l'argent et ils vont s'acheter quelque chose.
Et comment vous faites le tri avec les enfants? Parce qu'on n'aime pas comme ça le rap. D'autres, ils n'aiment pas la danse. Comment? C'est un travail de profondeur, c'est un travail de base.
C'est un travail en équipe. Chaque jeune a un projet, on sait à peu près ce que les jeunes aiment et c'est en connaissant leur profil qu'on leur propose telle ou telle activité.
Est-ce que vous avez pensé à vous faire un album, quelque chose comme ça, ou vous préparez quelque chose quand même?
C'est vrai qu'un album c'est quand même compliqué et tout, mais dans l'idée, les jeunes déjà ils sont beaucoup en demande de le faire. Donc là on se dit petit à petit, l'année dernière on a fait un son, là on en fait un deuxième. Et pourquoi pas, on va continuer. Alors, on ne va peut-être pas parler d'album parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Mais je pense que si on cumule de plus en plus de textes, on peut s'imaginer que oui, ça nous fera un album.
Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes qui croisent ces enfants, un peu qui ont un peu la tête ailleurs, parce qu'on voit pas mal de gens qui rigolent, qui les voient comme ça, qui les sous-estiment, qui leur parlent mal, qui rigolent, qui vraiment... Parce que j'ai discuté avec les jeunes ici, ils m'ont dit, on est mal vu dehors.
Comment je pourrais répondre à ça? Je pense que on va progresser dans le temps. Enfin, l'être humain, il va progresser dans le temps. C'est justement en partageant des journées comme ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'inclusion aussi, de travailler avec un public ordinaire et de pouvoir tous se mélanger. Et je pense que plus on va se mélanger et plus on va enlever cette étiquette qui peuvent parfois avoir. Moi, je suis super content d'être là. C'est un super beau travail. Et c'est valorisant. Je suis content quand je me lève. Je suis content quand je rentre chez moi. Et j'ai pas envie que ça s'arrête.
Donc c'est votre vœu là?
Ah ouais, moi c'est mon vœu. Moi c'est je vais continuer à faire ça le plus longtemps possible.
Merci Sacha, rappelez-moi votre prénom et
Sacha.
Profession.
Sacha, futur éducateur spécialisé, j'espère.
Vous pouvez rappeler Sacha Guitry.
Moi c'est Sacha Zdekovic.
Ok, merci Sacha.
Merci à vous.
Vous filmez quoi?
Ouais, je rentre à ma copine.
Ah bon?
Oui.
Mais c'est quoi ça?
C'est ma copine.
Et vous êtes là ici?
Je suis un chauffeur d'ici moi.
Vous travaillez depuis quand?
Je travaille depuis 2-3 ans.
Et comment ça se passe ici?
Très bien. Très belle, très bonne IME.
C'est vrai, hein?
Oui.
On dirait un parc,
oui. Ouais.
Les gens, ils se reposent ici quand même.
Ah, tout à fait, oui.
Et vous êtes passé par où, là?
Ben, par là.
Par la porte, c'est normal.
Par la
Et vous
porte, le monsieur l'a suivi.
Je suis...
Ah ben, il l'a suivi, là, il a triché, là. Vous avez triché. Vous avez participé à la fête, là?
Oui, bien sûr.
Et moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y aura là, ici?
Je ne sais pas exactement le programme, j'ai pas demandé, ça sera surprise pour moi.
Ah ben, vous l'avez enlevé de ma bouche. Eh ben, surprise, on va voir ce qui se passe. D'accord. Merci.
Je vous en prie.
Merci. Comment va?
Ça va bien?
Oui.
Ça fait plaisir de te voir.
Ah ben, oui, le va. Retour, hein.
Tu vas bien?
Je n'oublierai jamais le...
Ça va plaisir.
Merci.
Ah, jure.
Alors, qu'est-ce que tu
Non, pas de...
Si, c'est le micro. Oh. Vas-y.
Va. Va
les... C'est quoi, tu
fais avec les interviews. Là,
où ça?
En ville.
Toi, tu fais ici, c'est mieux. Tu es toujours là?
L'émission tire à sa fin. Hanaf et Dad Galère, il est 5h40. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À partir, comme d'habitude, à l'sa'a Rabia, hatta l'sa'a Sadissa. À partir de 16h et après. نكملوا على 6 هكذا خوا. تشاو تشاو تشاو. اليوم الحمان بزاف بون. تشاو تشاو تشاو. اريفيديرتي وبقاو على خير. نخليكم مع ريبورتاج تكملوه بيان 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 تاع فير بري. تشاو.
انا مو جو سول جافي كري لا.
ايز اريفا. Ça va?
Ça va.
Vous appelez comment?
Serine.
Serine, vous allez participer ici?
Oui, je fais spectacle, oui.
Et quel est le genre de spectacle?
Ben, je vais faire de la danse et faire du rap.
Très bien. Et qui vous a pris en charge pour le rap?
Ben, le rap, c'est deux éducateurs, Sacha et Moursa. Et la danse, c'est de la danse orientale avec Francesca et Ismaël. Et aussi une autre danse, breakdance, avec un danseur qui s'appelle Pierre.
Ah ben c'est bien. Donc l'écriture, c'est qui?
Personne, on peut dire.
C'est vous.
On choisit notre chorégraphie, voilà.
Et alors, vous avez préparé quoi comme surprise? Allez.
On va faire de la danse orientale avec une ceinture et tout, comme de la danse algérienne et tout. Et le rap, on a inventé nos paroles nous-mêmes.
Très bien. Sur voilà. Quoi? Le thème était quoi?
Il n'y a pas de thème sur les paroles.
Comme ça?
Comme ça, normal.
Ouais.
Ouais.
Et à quelle heure vous allez passer?
J'en ai aucune idée, vraiment.
Et votre famille, elle est là?
Hein?
Votre famille, elle est là?
Oui, il y a mon père et ma mère.
Ils sont où, là, les premiers?
Ils sont là-bas.
C'est pas ce que... Lequel? Ceux-là?
Ma mère avec la robe orange et mon père...
Oui, elle est là-bas. Oui,
et mon père avec sa voiture, je sais pas où il est. Voilà.
Ah ben, je vais le chercher. Comment il s'appelle?
Nourdine.
Ah ben, on va chercher Nourdine. Ok.
Là, je crois qu'il est dans sa voiture, en fait.
Eh ben, on va le chercher, quand même. Là, ici, c'est les parents. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu pour assister au...
Oui. À la parade.
Et vous avez qui comme un garçon?
Une fille.
Bah, avez-vous des filles quand même?
Une fille de 16 ans.
Ah ouais?
Océane.
Et comment? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'elle est là?
6 ans. Comment... 6 mois là.
Bon, bonjour. Et comment vous trouvez le travail ici? Votre fille, comment vous la trouvez?
Plutôt bien. Elle a un petit peu amélioré quand même. Voilà, elle s'est améliorée au niveau du parler, de sa façon de se comporter. Mais après, il y a encore des progrès à faire. Voilà, il faut qu'elle continue à travailler.
Et donc ici, c'est le parc, quoi. C'est un lieu quand même magnifique.
Oui,
là, c'est franchement. Éducateur, tout ça.
Oui, mais vous l'avez visité?
Ça fait presque 10 ans que je viens ici.
Ah d'accord, ok. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est très bien. C'est très bien.
Ben ok, je vais voir d'autres familles.
Ah,
ben merci. Hein. Merci.
C'est avec vous qu'elle a fait éventuellement le...
La Gazette.
Non, pas avec moi, pas avec d'autres. Bonjour.
Bonjour.
Ça va? Vous avez des enfants ici?
Bien sûr. Enfin, pas ici, mais à Louma Smaillon.
Oui, mais ils viennent ici.
Oui, oui.
C'est le même.
Oui, oui.
Mais ça fait combien d'années qu'ils sont les enfants dans le centre?
Depuis leur 3 ans, il a 12 ans.
12 ans. Et comment vous voyez le progrès de votre fille?
Mon fils, il s'appelle Ilyas, ouais, phénoménal.
Ah ouais.
Ouais. Et il est intégré, il a sa place dans la société grâce à ça.
Donc le travail a été bien fait?
Super, oui. Et il faut multiplier ce genre d'initiatives.
Il reste les parents quand même qui suivent. Mais...
Ouais, il faut que les parents suivent, ouais. Et il faut que le système suive aussi. Pour faire.
C'est-à-dire?
Le système, ça veut dire l'État, ça veut dire les gouvernements, ça veut dire les politiques. Il faut qu'ils encouragent ce genre d'initiatives.
Vous avez utilisé les mots politiques. Pourquoi? Les élus, tout ça, quoi.
Parce que c'est eux qui sont à la base de la décision. Donc c'est eux qui peuvent promouvoir ce genre de structure et pour répondre aux besoins qui sont actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Il n'y a pas assez de structures. Et ça, les familles en souffrent. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui n'ont pas la chance que nous avons eue, nous, d'avoir notre fils placé en IME et les places se font chères. Et c'est pas normal.
Donc il faut d'autres centres.
Il faut multiplier les centres, il faut accentuer les efforts. Oui. Comme le système canadien où l'inclusion n'est plus une question de moyens, c'est tout le monde est sensibilisé à la question, ils ont leur place partout.
Le Canada et la France, qu'est-ce qu'il y a comme changement là-bas, ici?
Là-bas, un enfant en situation de handicap a toute sa place dans la société, a toute sa place dans l'école, a toute sa place dans le monde du travail, contrairement ici en France, malheureusement, il y a du chemin à faire.
Donc, quand il sort dehors, il ne prend pas sa place, votre fils?
Généralement, on se prend des réflexions dans les transports en commun, dans les transports aériens, dans les transports TGV. On se fait des réflexions parce que les gens ne sont pas sensibilisés, malheureusement. Et parce que les mouvements derrière n'appuient pas. Donc, moi, je félicite les gens et je les encourage qui sont là pour faire vivre ces structures-là.
Et qu'est-ce que vous allez dire aux citoyennes et citoyens qui nous écoutent? Vous allez leur dire comme message?
Soyez tolérants. Soyez tolérants avec ces enfants-là, ils ont le droit de vivre comme tous les autres enfants. Ils sont nés enfants comme tout le monde, donc ils ont une particularité, il faut les accepter tels qu'ils sont.
Ils sont intelligents.
Ils sont hyper intelligents. C'est juste qu'il y a des a priori sur ces enfants. En fait, ils sont différents, ils ont leur spécificité. Et au Canada, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque enfant est différent et chaque enfant est accepté avec sa différence. Et là-bas, on dit neurotypique, on dit une neurodiversité. Ça veut faire toute la différence. En France, on utilise le mot neurotypique pour dire enfant handicapé. Au Canada, on dit neurodiversité parce que ça fait de la richesse.
Donc, il faut copier le modèle canadien.
Exactement. Voilà.
Merci. Bonne fête pour vous, les enfants, tout le monde. Ok, merci. Merci.
Il y a moi.
Oui.
Il y a moi, je crois, et Mourad, il va venir me voir après. Il m'appellera.
Ouais.
Et après, je sais pas, hein, j'ai pas encore vu Grégory Gagny, je sais pas s'il est là. J'ai revu un peu des gens. Mais...
Jérémy, tu le vois?
Jérémy Coupa? Oui. Jérémy qui?
Celui qui est animé, là, Jérémy.
Mursé? Il fait toujours Radio Soleil.
Voilà.
Non, je sais pas, il est pas là aujourd'hui.
Celui qui fait des, l'animation.
Ouais, mais je suis jamais à sa radio.
Ok. Elle est située où, sa radio? À la maison, chez lui?
Mes chers auditeurs, je crois que vous n'aurez pas tout le reportage complet. Je vous promets que ça sera pour le jeudi prochain, la suite, Agda, parce qu'il est 5h48, donc je vais laisser la place à d'autres émissions préparées. Donc, je vous donne rendez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le deuxième épisode, jeudi prochain. Et ça sera plus long encore.
Une dernière consigne aussi, s'il vous plaît. Lorsque vous allez aller à la buvette, on va vous donner des verres, parce que pour boire, c'est quand même beaucoup plus pratique, mais on vous demandera de les ramener à la buvette, voilà, de ne pas les jeter, parce que ce sont des verres recyclables, ok? Alors...
رقيق الحالي ويوغي وليو إذ ما دقي ما إذ ما دقي ما تشد ضريري ونكما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا نكفى ضغفلا مشي مور السلام وروح سبي وليم اسكت غر وامان زديه تصفان كذن تعدين لجوابي واتان وزد سر سلام لجوابي واتان وزد سر سلام ارنملي لذيسين ارنملي لذيسين أرقيق الحالي ويوغي وليو يذ ما ذقي ما يذ ما ذقي ما تشد ضريري ولك ما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا نزل زغف مصي وذي ثمن بولي وغفل جالين فرح بكم كاني وينغك موغفني وصرغ ضغكم ذي العتابي وقريبتي شيو ذي العتابي وقريبتي شيو النسغر غرام النسغر غرام أرقيق الحالي ويوغي وليو يذما ذقيما يذما ذقيما اذشد ضريري.